Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis toujours ravi de vous retrouver pour parler pendant 1h30 de sport avec vous, chers amis auditeurs. Et aujourd'hui, on va parler de randonnée pédestre avec nos amis de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de Vaucluse. Avec messieurs, tout d'abord, Jean-Pierre Tallieu, chargé de communication auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de Vaucluse, mais également référent rando-santé.
Référent départemental.
Voilà, référent départemental. Tu vas bien, Jean-Pierre ?
Ça va très bien, merci.
Ben, merci en tout cas à toi et à ton ami d'avoir accepté notre invitation.
Ben, c'est avec plaisir.
Et donc, je présente ton ami, Paul Lozano, donc nouvellement élu au comité départemental de Randonnée Pédestre, et également, alors là, T'as un sacré bagage quand même en randonnée pédestre. Tu es responsable de Rando Santé Aviron, au Solar d'Aviron, c'est une association qui est située au Pontet. Il y a Bruno qui s'amuse à faire à se la jouer, à se la péter. Parce que je n'ai pas encore dit bonjour à Bruno, alors il est vexé. Donc, je disais, tu es donc référent Rando Santé au Solar d'Aviron au Pontet. Tu es animateur premier degré de randonnée et également baliseur. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est bien ça.
C'est exactement ça.
Ouais, tu vois, j'ai bien noté, j'ai pas fait d'erreur en tout cas. Voilà, et maintenant je vais pouvoir vous présenter mes amis les animateurs parce que Valérie était un petit peu en retard, mais beaucoup en retard. Alain était en retard parce que malheureusement Valérie était en retard. Et Alexandre, il est malade. Et il y a que Bruno qui était là. J'ai commencé par Bruno, tiens pour la peine. Bonjour Bruno.
Salut Lionel.
Tu vas bien ?
Ça va.
Bon, le prochain coup, tu mets une musique comme ça, anniversaire, ça peut être pas mal, bonne année, ou tu vois, des trucs sympas.
J'ai préparé à la va-vite et j'ai appuyé trop vite sur un bouton.
Toi, à la va-vite ?
Ah ouais, ça arrive.
Oh, c'est rare.
Ah, allez, arrête.
Oh là. Bon, et donc, il y a Valérie. Salut Valérie.
Bonsoir Lionel.
Ça va ?
Ça va. On est un peu en retard, on n'a pas vu l'heure, mais bon. On fait du covoiturage, alors donc oui. Il faut traverser Carpentras, et puis on n'habite pas nous dans Carpentras. Donc
et puis il faut avoir une voiture électrique, et avec une voiture électrique, on ne va pas vite.
Si, celle-là, elle va vite, celle-là.
Oui,
hein.
Oui. Ouais,
j'appuie celle-là.
J'ai presque peur.
Voilà.
Et Alain, salut mon cher Alain.
Salut, comment vas-tu ? Bonsoir à tous.
Bah écoute, moi je vais super bien, et toi ?
Eh bah écoute, oui.
T'as pas eu peur au volant avec Valérie ?
Un petit peu. J'ai failli vomir, mais ça a été.
Bah, tu vas rentrer à pied ce soir.
Vas-y. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus.
Bonsoir.
Âme sensible. Voilà, donc, quand vous venez d'arriver tous les deux, aujourd'hui, c'est randonnée pédestre avec nos deux invités.
C'est ce que j'ai appris.
Mais avant cela, et puis il y aura également, chose importante, deux duplex téléphoniques.
Oui.
Le premier avec Maxime Pala, manager de l'équipe premier du Racing Club Carpentras 13 du Comtat. Ils ont joué hier, ça n'a pas été très terrible, on en parlera tout à l'heure avec Valérie. Je crois même que Valérie était au stade.
Tout à fait.
Donc on sortira les Kleenex, mais en tout cas c'était un très
non,
très bon match.
Non, c'était
un très bon match, on m'a dit.
Oui, voilà, il ne faut pas sortir les Kleenex. On savait que c'était un match difficile parce que bon, ils ont quand même joué contre l'équipe
d'Avignon
qui évolue en élite 1 et qui est première de sa poule. Donc ce n'était pas facile, mais ils ont quand même bien joué les Carpentrassiens, ils ont quand même mis deux essais.
Bon, on développera un peu tout à l'heure. Donc ça sera le premier du PS téléphonique. Et le deuxième, on parlera de, ça va plaire à Alain, de vélo. Hein, parce qu'il y a un événement très très important qui aura lieu à la fin de ce mois-ci. C'est Avignon Vélo Passion.
Ouais.
Et donc pour en parler, on sera avec le président du comité départemental de cyclisme de Vaucluse, Georges Garcia, qui est également président de BMX Organisation. Donc ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure.
Parfait.
Avant cela, on va parler des résultats. Juste avant de te donner la parole, Valérie, il y aura bien entendu aussi la chronique de toi, Alain, en milieu d'émission, justement, chronique sur le vélo. Voilà. Je vous ai donné le menu, un menu diététique, menu sportif.
Oui. Voilà, menu sportif. Allez, je vais donner quelques résultats sportifs et je vais commencer avec l'ABC Carpentras, donc avec du basket. En U11 filles, Carpentras recevait Cavaillon et Carpentras s'est imposé 32 à 22. En U11 garçons, Carpentras la recevait Avignon, 14-18. En U15 filles, l'ABC Carpentras recevait Bolène, Là, malheureusement, Carpentras s'est incliné 31-97. En U15, garçon, Carpentras se déplaçait à Rognonias et s'est imposé 72-54. En U18, Carpentras recevait l'USAP, donc c'est Avignon, là aussi. Et Carpentras s'est malheureusement incliné 55-81. Il y avait la Coupe de Vaucluse, donc Sauveterre-les-Angles recevait Carpentras et la Carpentras s'est imposée 68-40. Il y avait ensuite les seniors garçons qui se déplaçaient à Marseille et qui se sont inclinés 45-96. Et enfin, les seniors filles donc recevaient donc le basket Côte Bleue. Est-ce que vous savez où ça se trouve?
Pas du tout du monde.
Eh ben, Saucé-les-Pins.
C'est à la Côte Bleue.
Ouais, c'est à Saucé-les-Pins.
Ah,
et Carpentras donc là s'est incliné 26-31.
Donc ils ont pris la saucée.
Voilà. Oh, non, ils n'ont pas pris une saucée, 26-31. Bon,
non, ça va, c'est
ça a été un match quand même assez difficile.
Bah, il fallait bien que je passe mon jeu de mots.
Bah oui, voilà. Oh, il y avait du handball, donc à Mazan, avec Mazan. En National 2, bah Mazan s'est logiquement, entre guillemets, donc incliné face à Bourg-de-Péage, 26-36. Il y avait la pré-nationale aussi qui jouait, donc Mazan s'est, donc, a reçu Plan de Cuc, 18-21. Les moins de 18 ans, eux, s'est déplacés à Thuir et elles se sont imposées 26-31. J'étais contente. Et en moins de 17 ans, Elite PACA, Mazan donc se déplaçait à Apt et là Mazan s'est imposé 27-15. Il y avait aussi du tir à l'arc. Donc nos amis de Saint-Siffrin, donc nos amis archers hein, de Saint-Siffrin, donc ont repris la compétition hein, plus, pour les plus jeunes exactement et ils se ils étaient 8 à se rendre à Cavaillon, accompagnés par leurs deux entraîneurs, donc Benoît Bétron et Gérard Nary. Donc pour ce premier concours de l'année qui a rassemblé environ une soixantaine de jeunes archers de tous les clubs du département, dans la catégorie débutant, trois Carpentraciens montent sur le podium. Solan Fernandez, qui est premier, Sacha Kalisiowski, qui est second, Mathieu Renoux, qui lui est troisième. En niveau 3, Damien Brun se classe troisième, et en niveau 2, Mathis Tenon est premier. Gabriel Bonnet, lui, est second. Par ailleurs, Samuel Becker accède au niveau 1 et Lucas Pavani au niveau 2. Donc bravo à tous ces jeunes archers. Il y avait aussi du foot en district 1, Carpentras, Avignon 5-1, Nove Perne 3-1. Au classement général, Carpentras est premier donc avec 36 points, suivi d'Orange 33 points et Perne est 11e avec 24 points. En district 2, Poule B, Saint-Didier-Monteux 0-2. Au classement général, Monteux est 7e avec 27 points et Saint-Didier 12e avec 18 points à un point du relégable. District 3, Poule A, Valréas-Lauriol 8-0. Saint-Didier-Monteux, je n'avais pas les résultats. Je ne sais pas si Alain, tu les vois, Saint-Didier-Monteux. Au classement, il y avait aussi l'Étoile d'Aubune qui rencontrait Camaré, là aussi 0-4. Donc au classement général, Monteux est 7e avec 26 points, à 6 points du premier qui est Orange, et Lauriol 12e avec 17 points, et enfin Saint-Didier 14e avec 12 points. Il y avait aussi la poule B, Carpentras-Caderousse 4-2, Malocène-Bosquetaine 5-1. Au classement général, Carpentras est 2e avec 33 points, à 1 point du premier Caderousse, et Caron est 3e avec 32 points, et Sarian 9e avec 23 points. Enfin, la district 4, DH féminine, pardon. Caderousse recevait l'Étoile d'Aubune 1-2 et Monteux recevait Beaunieu 3-1. Au classement général, Monteux est premier avec 34 points et Étoile d'Aubune troisième avec 24 points. Voilà, pour moi, c'est tout. Voilà, voilà. C'est déjà pas mal.
Ouais.
Comme je savais pas qu'Alexandre était pas là, mais bon, on va donner les résultats de foot après.
En fait, je souris parce que il a fallu que je m'absente un petit peu, donc j'ai pas du tout suivi les résultats de Valérie.
Mais c'est pas grave.
Est-ce que tu as donné les résultats du rugby?
Non, je n'ai pas donné le rugby. C'est pour ça que j'ai dit.
Donc, ce que je te propose, tu donnes les résultats de Carpentras et moi, je pourrais donner les autres. J'ai tout.
On va enchaîner comme ça.
Voilà. Carpentras, en rugby à 13, Carpentras, donc c'est l'équipe Elite 2, s'est inclinée 10-66.
Voilà, contre Avignon qui est en
contre Avignon.
Que 66.
Oui, mais en rugby à 13, ça va très vite.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Bon, il y a eu beaucoup d'essais de la part des Avignonnais hein, sur les ailes essentiellement. Donc voilà. Bon, on voyait, il y avait une grande différence hein, de jeu. Les Avignonnais sont beaucoup plus rapides, surtout lors d'une faute, ils reprennent et ils repartent aussitôt. Donc c'est ce qui aussi a fait... Et puis bon, ils ont pas mal d'étrangers. Hein. Paraîtrait-il qu'ils ont déjà, ça on demandera à Maxime si c'est vraiment vrai, ils ont des Australiens.
Ah bon ?
Et il m'a semblé aussi voir des Samois.
Ah bon,
tiens. Donc c'est pour ça qu'on va le demander.
Même en 13.
Même en 13, tiens. Ah oui. Ah, et étonnant. On voit la différence quand même.
Ah bah donc, oui, je me doute.
Enfin, c'est dommage.
On la voit en rugby à 15, on va la voir forcément en rugby à 13.
Exactement, c'est dommage quoi.
Alors, il y avait également les U19 de Carpentras.
Oui, mais je suis arrivée à la fin du match en fait.
Mais t'as rien raté. Hein.
Voilà, ils ont perdu aussi largement. Ça, je sais qu'ils se sont inclinés.
Alors ils se sont inclinés contre Toulon, 0-78.
Oui, mais bon là c'est pareil.
Voilà.
Il y a des différences aussi attends, de jeu.
Bah pour avoir un tel résultat, oui, on peut.
En plus, à Carpentras, même là, il y avait quand même une équipe. Mais Carpentras, il y a eu beaucoup de malades aussi, donc beaucoup d'absents. Donc, c'était difficile au niveau des changements. Donc, voilà, mais bon, c'est pas grave. Là. L'essentiel, c'est d'avoir bien joué. Ils ont quand même bien joué, les Carpentrasiens.
Non, mais après, au niveau du Vaucluse, pareil, hein, ça a été un petit peu la cata partout. Il y a Entraigue qui jouait et qui recevait Limoux. Là, c'est pareil. Entraigue a perdu 14-46.
Ouais. Mais oui.
Après les autres résultats, il y avait Caumont qui recevait le Bacarès. Caumont, par contre, a gagné cette fois-ci 21-18.
Bah, ça doit être une des seules équipes du Vaucluse. Voilà. Hein.
Et en fédéral, il y avait Salon qui jouait contre Carpentras en fédéral. Donc Carpentras se déplaçait à Salon et là aussi, Salon s'est imposé 60-4.
Eh oui. Voilà. Ah non, mais c'est sûr, mais on le voit hein, de toute façon sur le terrain, le niveau de jeu. Bon, moi, ce que je peux féliciter aussi, c'est que les Carpentrasiens, par contre, ne sont jamais laissés abattre. Ils ont continué de jouer. Donc, pour ça aussi, on peut les féliciter. C'est pour ça que je tenais à les féliciter, parce que franchement, ils ont donné du spectacle quand même.
Mais tu pourras le dire à Maxime, il sera content.
Oui, bon, bah, je suppose qu'il entend de toute façon, Maxime.
Et le dernier résultat, donc, c'est en U14. Donc là, c'est un bon résultat pour Entraigue. Entraigue qui recevait Morières-Avignon. Et Entraigue s'est imposé 48-0.
Ouais.
Voilà, donc c'est pas mal.
Oui, non, mais c'est des résultats. Bon, voilà.
Bah, écoute, en tout cas, bon, mais on verra un petit peu avec Maxime qui nous dira comment lui il a ressenti le match. Parce que moi, les retours que j'ai, ce sont des retours très, très, très positifs quand même.
Ouais.
Parce que bon, c'est pas du tout la même division. Et puis,
Non, mais c'est pour ça que je te dis, ils ont quand même fait un match. Voilà. Même s'ils ont perdu, ce qui était un peu logique, je te dis. Ils ont quand même fait leur match.
Bon, bah écoute, on fait une petite pause téléphonique. Tu vois, je suis tellement sur mon duplex téléphonique avec Maxime qu'on fait une pause téléphone. Allez, la pause musicale.
Again.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc après cette petite pause musicale bien méritée, hein, nous revoici dans les studios. On est bien entendu en direct sur le 102.2 ou sur le site internet ou sur l'application téléphonique.
Oui, hein, sur smartphone, bref.
Voilà. Bon, on parlait de duplex téléphonique, mais justement, on a notre premier duplex téléphonique. Il s'agit de Maxime Pala, manager de l'équipe première du RCC 13. Bonsoir Maxime.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
Tu vas bien ?
Merci de nous accueillir. Très bien, très bien.
Ouais. Bon, tu t'es remis du match d'hier ?
Alors écoutez, on est un peu partagé, oui. On s'est remis forcément parce qu'il fallait bien se lever lundi matin quand même. Mais ouais, le score est un peu lourd. Mmh. Si les personnes ne sont pas venues au stade, c'est certain que si on écoute le score final, 66-10, ça peut paraître lourd. Mais bon, je vous ai un peu écouté tout à l'heure et comme le disait Valérie, on n'a pas baissé les bras, on a joué jusqu'au bout, donc les Carpentraciens sont à féliciter dans l'état d'esprit. Et puis ben voilà, on a joué une super belle équipe, hein, il faut surtout le dire, quoi, Avignon. Qui est vraiment une super belle cylindrée, qui est pas leader du championnat d'élite 1 pour rien non plus. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, le SOA donc, est leader du championnat élite 1 après 4 journées, donc ils ont gagné leurs 4 matchs.
Donc c'est là, une sacrée équipe.
Oui, c'est une belle équipe, il y a du beau jeu, ça va très vite, c'est vraiment... je pense que les supporters se sont régalés parce qu'il y a eu un match ouvert. Ça n'a pas été un match fermé comme certains auraient attendu. On aurait pu, on va dire, dans notre jargon, pourrir le match, mais étant donné qu'on a essayé de jouer, et donc, ben voilà, c'est sûr qu'une faute, c'est un essai derrière, ça paye cash, quoi.
Mais vous attendiez à ce résultat ou non, c'était quand même mal, parce que, Avignon, vous connaissez cette équipe, leader de l'élite 1. Mais bon, ouais. Voilà, il y a quand même une cinquantaine de points d'écart. Est-ce que vous attendiez à ce résultat ?
Bon, il est certain qu'on aurait préféré pas dépasser les 40 points. Ça aurait été plus cool, mais bon, mais voilà, là, de toute façon, le rugby à 13, ça ne pardonne pas, quoi. Donc ça va. On sait le travail qui nous reste à accomplir derrière. Mais mis à part ce score assez fleuve, on va dire, il y a quand même des gros points positifs qu'on va essayer de ressortir, nous, par rapport au groupe. Ce qu'on a beaucoup aimé avec les coachs, l'état d'esprit des joueurs. On a fait moins de fautes que d'habitude dans des matchs qui sont plus à notre portée, on va dire. Sauf que là, ben, une faute, c'est vrai qu'une faute, c'est un essai derrière. Alors que sur des équipes de notre niveau, on peut faire plusieurs fautes dans le match. Il n'y a pas forcément à chaque fois des essais. Mais là, vraiment, ça ne pardonne pas. Donc les jeunes derrière, le soir, on discutait ensemble. Ils savent qu'ils ont encore du boulot sur la planche. Mais bon, c'est bien parce que ça va nous remettre dans le bain là, directement dimanche prochain. Mais bon, voilà, on va fermer cette page de la Coupe de France et vraiment se remettre en plein pour le championnat, quoi.
Et sinon, qu'est-ce qui vous a manqué hier même si, bon, effectivement, pour gagner, ça aurait été compliqué, mais...
Il nous a manqué du physique, hein, réellement, parce que, bon, mais si on voyait les bébés d'Avignon, ils nous rendaient quelques kilos, quand même. Trois étrangers sur la feuille de match également, hein. Il y a des grosses différences de suite, hein, qui vont se faire.
Hein. Ouais, Valérie en parlait justement.
Ça apporte donc de la vision du jeu. Ils ont un Australien, Diamond, là, qui a maîtrisé super bien le jeu. Des internationaux français quand même également, avec Olivier Arnaud, qui a fait la Coupe du Monde en Australie là, il y a un mois. Donc il y a de super beaux joueurs, hein. on va pas le nier. Nous, ce qui nous manque, c'est du physique, c'est quelques kilos, et puis c'est à un moment donné, ce que je leur ai dit, c'est des, ben voilà, quand il y avait 20 ou 30 à 0, on était à 4, pardon, 20 à 4, j'ai dit, ben maintenant, il faut se libérer, quoi. Le score, on sait qu'on va pas le gagner, ce match-là, mais essayez de vous faire plaisir et essayez de jouer les coups. C'est surtout, c'est ce qui est important pour nous, c'est de prendre comment vous dire,
de la bouteille.
Ouais, de la bouteille, essayer de, d'avoir un peu plus de vis des fois. Bon, ben voilà, c'est, on est une équipe en reconstruction malgré tout, mais on est sur la bonne voie. Bon, c'est ce qui est important à ressortir. Quoi.
Voilà, comme tu disais, donc cette page est refermée depuis hier soir. Maintenant, on va parler du championnat. Le championnat, c'est vrai que le début de saison a été compliqué. La fin, le début de saison, la fin d'année, beaucoup plus positive. Et ça, on en avait parlé justement avant les vacances. Dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs ?
Ouais, dans un bon état d'esprit, puisque là, on va quand même enchaîner des matchs à la maison. Parce qu'on s'est beaucoup dépassé sur la première phase. Donc, on sait que c'est compliqué d'aller gagner quand même à l'extérieur. Et donc là, on reçoit dimanche, donc ce dimanche, Villeneuve-Minervois, chez qui nous sommes allés gagner, hein, déjà. Donc voilà, là, il faut glaner les points qu'on a perdus en route. Et donc là, on a vraiment de bonnes occasions de se rattraper à la maison. Donc avec Villeneuve-Minervois et puis Ferrals qui sera là dans 15 jours. Donc voilà, ça, ce sont des victoires impératives quoi, pour le groupe. Mais on aborde ça sereinement. Et ce que je vous ai dit, je pense que vous vous rappelez, hein, au final, il faudra regarder là où on se trouvera au classement final et on sera dans la qualif pour aborder les quarts de finale comme il faut. Quoi.
C'est en tout cas,
même si ça va être dur, on y sera.
En tout cas, si le début de l'année se... on va dire, confirme la fin d'année dernière. En tout cas, vous avez toutes les chances, justement, de terminer la saison de manière beaucoup plus belle que vous ne l'avez commencé.
Oui, tu fais bien de le dire, parce que c'est une fâcheuse habitude. On démarre vraiment toujours, je crois que chaque début de saison, on est dans le ventre mou. Et on est comme un diesel, on se remet en route et puis on finit en boulet de canon. Donc j'espère que ça sera encore pareil cette saison, quoi. Voilà.
Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est en tout cas tout ce qu'on vous souhaite. Et surtout, on donne rendez-vous aux spectateurs dimanche au stade de la Roseraie. D'autant plus que hier, le stade était bien, bien. Il y avait du monde, hein, pour vous soutenir.
Il y avait du monde, et bien sûr. Derby, ça plaît toujours dans une terre très vive comme le Vaucluse. Après, c'est dommage parce qu'il y avait d'autres gros matchs qui se jouaient au même moment à Entraigues et à Caumont. Et la fête aurait été plus belle si vraiment tout le Vaucluse s'était réuni ce jour-là, mais bon, ça pour le prochain coup, certainement.
Voilà. En tout cas, on vous souhaite pour les deux prochains matchs, Villeneuve et Ferrals, un gros mot qu'on ne citera pas à la radio. En tout cas, merci Maxime d'avoir accepté notre invitation.
Je profite juste un petit mot parce qu'on a le club de rugby organise son loto comme chaque année. Et donc le samedi 27 janvier, à la fin du mois, à l'espace Ozon, à partir de 20h ou 19h, on vous rappellera l'heure, mais on fait le loto du club. Donc on espère avoir beaucoup de monde, il y a de super lots à gagner, scooters, voyages, les PS4, les téléviseurs, etc. Donc voilà, ce sera à Carpentras le 27 janvier.
Mais... On sera en rendez-vous, d'autant plus que, comme tu le disais, Maxime, c'est un loto très, très, très bien doté. Et j'insiste sur les très, très, parce que je crois que sur tous les lotos qui sont organisés, tu fais partie, on va dire, le RCC 13 fait partie des clubs, justement, qui accueillent énormément, on va dire, beaucoup de dotations au niveau des lots. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à venir vous voir.
Un scooter, je crois qu'il a, je sais pas s'il a été offert ou par les établissements blancs à Carpentras. Tu vois, j'étais au match hier, donc j'ai entendu.
Et même, t'as vu, Valérie, elle fait de la pub pour toi.
Il y a de jolis lots, on sera là, toute l'équipe, pour accueillir le loto, la buvette, la restauration, tout ce qu'il faut, dans la bonne humeur.
On te fait confiance pour ça, on fait confiance au RCC 13. En tout cas, merci beaucoup Maxime d'avoir accepté notre interview et on se retrouve bientôt parce qu'en février on aura une émission ensemble.
Bonsoir à vos invités également. On va écouter, c'est de la marche ce soir, c'est ça?
C'est ça,
on va marcher.
Bonsoir, allez, merci.
Merci, bonne soirée à tout le monde.
Allez, bisous, Maxime. À bientôt, au revoir Maxime.
Au revoir.
Voilà. C'est bon, de retour dans les studios. Ça fait bizarre parce que le retour son n'est plus du tout le même. C'est pour ça que je t'ai regardé, Bruno. On parlait des lotos. J'en donne un parce qu'il me tient particulièrement à cœur. C'est le loto de Sacapus qui aura lieu dimanche, qui arrive là, le 21, je crois.
Oui.
Hein, c'est ça. À 14h. Là aussi, excessivement bien doté. Hein, il y a un carton à plus de 1000 euros. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir à l'espace Ozon. 14h, le rendez-vous dimanche prochain, là, dans quelques jours. Voilà, donc on ferme la page loto. Et maintenant, on revient avec mon petit Claude. Claude.
Alain.
Alain. Je ne sais pas pourquoi j'appelais Claude.
Mais pourtant, il n'a pas une tête de Claude.
Non, mais bon, si tu veux, si ça te fait plaisir, appelle-moi Claude.
Non, Alain, j'aime bien, parce qu'en plus, c'est le président de notre radio, tu sais très bien.
Ben oui, bon, alors ça
c'est lui qui décide de nos augmentations. J'en parle souvent, justement, pour qu'il nous entende, le chef. Donc, on parlait tout à l'heure de rugby à 13. Il y avait du rugby à 15, Coupe d'Europe.
Et oui. Il y avait effectivement la Coupe d'Europe qui s'est déroulée tout ce week-end. Et quelques surprises. Car dans le groupe de la poule 1, eh bien, La Rochelle a été battue par 20 à 13. C'est assez surprenant parce que depuis une grande saison, La Rochelle est en pleine bourre, employer le terme qui va bien. Et moi-même, je suis très surpris du résultat qui n'est pas aussi énorme que ça, mais je ne m'attendais pas à ce que La Rochelle soit battue.
Et par qui s'est battu ?
Alors, il a été battu par le Ulster, qui est un club d'Irlandais.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et alors, donc, au classement général, pour l'instant, dans sa poule, La Rochelle est toujours en tête avec 17 points.
Oui,
pardon, je vous dis une bêtise. C'est le Ulster qui est en tête avec 17 et La Rochelle qui suit très près à 16 points.
Oui, normalement, donc, ils sont qualifiés quand même.
Il n'y a rien de dramatique. Donc, dans la poule 2, et là, maintenant, on commence à s'y habituer, hein. Clermont a encore été battu.
Ah ouais. Là,
et voilà.
Dépité.
24 à 21.
Et plus qu'on est une équipe française.
Moi aussi, parce que j'aime bien Clermont. Et en plus, par une équipe anglaise.
Ah, pardon, oui.
Par une équipe anglaise. Et donc, au niveau du classement, heureusement, Clermont est toujours en tête avec 18 points. Je crains fort, franchement, qu'ils finissent très, très, très mal la poule. Ouais.
Parce que ils ont perdu contre Northampton, 34 à 21.
Et oui, tout à fait. C'est tout à fait ça.
J'étais dégoûté.
Et oui.
Là, franchement, Alexandre, il serait bien moqué de nous, là, tu vois.
Ouais.
Donc, Alexandre, si tu nous entends, ça tombe bien que tu ne sois pas là.
Voilà. Oui.
Ça tombe bien que tu sois malade. Hein.
Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait Toulon aussi.
Alors, d'abord, on a la poule 3, si tu le permets.
Où là,
effectivement, encore, on n'est pas gâté, puisque Montpellier a ramassé, on va dire, un manteau, hein, puisqu'il a perdu, 41 à 10 contre Elexter, un club anglais. On est surpris quand même parce que Montpellier, depuis quelque temps, avait repris du poil de la bête. Mais bon, c'est comme ça.
C'était pas la fête des clubs.
Voilà, exactement.
Français.
Et donc,
Pour La Rochelle.
Au classement de la poule 3, Montpellier est troisième avec 13 points.
Ouais,
ensuite, de quoi ? On va parler de la poule 4, bien sûr. Et là, félicitations à nos Racing 92. Moi, j'ai vu le match. Félicitations, pour une fois, ils ont fait vraiment une très très belle prestation.
Contre Munster.
La preuve en est, puisque 34 à 30 contre le Munster, l'équipe irlandaise, et ça se passait à l'Arena, le nouveau stade en région parisienne, l'Arena 92. Alors très étonnant au début, c'est juste un peu l'anecdote, c'est de la pelouse synthétique. Et on s'est aperçu que les Irlandais qui n'avaient pas encore joué ont eu quelques difficultés à trouver leur marque et leur appui sur une pelouse qui glissait. Et on voyait ça au niveau des crampons.
Et les deux derniers résultats, et puis après on sera obligé de rendre l'antenne, je vais passer assez
alors,
vite.
Alors, le dernier résultat.
Il y a Pau, hein, qui a gagné contre Zèbre 42 à 14.
Et
le dernier très très important, c'est Lyon, qui a été éliminé.
Absolument. Et Toulon, puisque tu parlais de Toulon a gagné 36 à 0. Face à Trévise, le COP italien.
Voilà, et donc Lyon a perdu contre Salles 15 à 13.
15 à 13.
Allez,
tout
on fait une petite pause et après.
Et puis on parle en balle.
Allez, à tout de suite. Got bars for years, I hope you send me a letter. No, she'll never be queen, so now she got the vendetta. I ain't talking about David when I say I'm a getter. 20 mil on my off, season of course. 20 million when you ain't put out no album of tours. Yes, bitch, I'm me, pretty and icy. You get it, icy, but my name's spelled N-I-C. I feel like we're going under. Take me down, I can't help but wonder. You got everything I want, and if you keep on talking, I'ma put it where you want it. Love me downtown. You got everything I want now. Let me feel your face.
darkness. Made that thing a starfish, right up on my swordfish. I'ma bring sparks in your favorite narcs. Ooh, you raise the bar, you take it far, you rate it R. But keep it tight, tight, take it deep, go night, night. Go so far down, turn on you, I lose Wi-Fi, give me high five. Cause you know you gon' need a goon to come lick, lick your wounds. Got you lit like tick, tick, tick. Like tick, tick, tick. Tick, tick, tick.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur le 102.2. Nous sommes bien sûr en direct comme tous les lundis de 18h30 à 20h. Et on peut nous réécouter, Valérie. Un petit interrogation écrite. Ah non, tiens, on va changer. Alain.
Oh bah alors là, je suis sec.
Voilà.
T'es sec
voilà. Ah, alors complètement sec. Non, mais moi, je vais l'aider. C'est le mercredi de 5h30 à 7h.
Oui.
Et... Tu hésites un petit peu, hein,
non, 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 ah, c'est bon, parce que j'allais Valérie, te donner un scoop. Un bientôt, on va encore changer d'horaire et puis on passera un peu plus souvent.
Ah, voilà.
Donc, ça, c'est un scoop pour nous.
Oh là là.
Donc, voilà. Et puis aussi, on peut nous écouter sur le www.rtvfm.net et puis sur nos téléphones mobiles. Hein, maintenant, il suffit de télécharger l'application et on peut nous écouter là aussi. Mmh. Bon, voilà. Et puis aussi le podcast que ben, Lionel mettra mercredi dans la journée.
En règle générale, en ce moment, j'arrive à respecter le mercredi.
Et puis s'il n'est pas mercredi, il est jeudi, c'est pas grave. Voilà.
Ouais, non, mais bon,
ce qui est intéressant,
de mes invités,
c'est
toujours bien de pouvoir le mettre le mercredi.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les invités peuvent le récupérer et le remettre aussi sur leur page ou Facebook ou sur leur site. Voilà. Donc on sait qu'on a pas mal d'invités qui font ça et c'est pas mal. C'est vrai.
C'est vrai.
Voilà. Bon, Alain, est-ce que tu as bien tout noté? Parce que la prochaine fois, l'interrogation écrite sera pour toi.
Non, puis je m'aperçois.
Je te fais une anti-sèche.
Il faut dire aussi que c'est quand même la femme du président. Donc, si elle ne connaissait pas complètement le programme.
Ça craint.
Ça craint. Ça pourrait être très inquiétant.
Ouais.
Enfin.
Bon, en
bravo,
tout cas,
Valérie, bravo.
Voilà. Ouais, merci.
Tu me feras un petit papier?
Ouais, je te ferai un petit papier.
Et le scoop, alors, on peut en savoir un peu plus ou non?
On verra durant l'AG, tu en apprendras pas mal.
Bon.
Oh.
Donc, chers auditeurs, on en saura un petit peu plus après l'Assemblée Générale de l'association qui aura lieu le 3 février prochain.
Tout à fait.
Voilà.
Voilà. Donc, le président a dit qu'il nous amènerait la galette, des petits fours.
C'est ça, voilà.
Le champagne.
On va faire la teuf, comme ils disent les jeunes.
Voilà. Bon, ben. Alors, avant de parler à nos invités de randonnée pédestre, on a fait du hand.
Et oui, on va féliciter nos bleus qui, encore, ils sont comme d'habitude d'ailleurs.
Nos garçons,
Les garçons, bien sûr. Sinon, j'aurais dit les bleuettes.
Les bleuettes, oui. Parce que les filles tournent aussi bien que les garçons. Hein.
Absolument. Mais sur le match d'hier, la France a donc gagné par 33 à 26 face à l'Autriche. Et elle se retrouve, bien sûr, dans le groupe B, en tête de sa poule, avec 4 points. Effectivement, nos bleus ont un petit peu de mal à se trouver, mais c'est tout à fait logique, puisque... Tous les grands cadors, les cadres ont pratiquement quitté l'équipe de France. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont en plein renouveau. Et d'ailleurs, dans un article d'un journal bien connu qu'on appelle l'équipe, notre ami Duc Abalo dit qu'effectivement, il faut le temps que son équipe se retrouve pour intégrer tous ces jeunes qui démarrent pour pratiquement... Oui, il y a quand même... Si, si. Fais pas l'amour.
Il y a très, très, très bons jeunes joueurs qui ont d'ailleurs joué la dernière fois.
Il faut qu'il y ait cohésion c'est effectivement pas... tous ces anciens cadres. Voilà.
Mais dans le cadre de mon langage non verbal, en fait, l'amour était surtout au fait de dire qu'ils se sont un peu retrouvés parce qu'ils ont gagné.
Ah bah oui, bien sûr.
Et tu vois... Le langage non verbal, tu vois, il peut perturber.
Oui, à la preuve en est.
À la preuve en est.
Voilà, donc félicitations. Et puis on sait qu'ils vont aller loin parce qu'on est tellement habitués à leurs prestations extraordinaires que moi je suis confiant et je suis certain qu'ils vont aller au bout comme d'habitude.
On
leur souhaite bonne chance surtout.
Ouais, c'est chouette.
Hein?
Allez,
voilà.
Randonnée.
Tu fais de la rando, Alain?
Oui, ça m'est arrivé, mais c'était pas mon sport de prédilection. Mais oui, parce que je trouve que c'est très agréable.
Tiens, bah justement, j'ai une question à poser à nos deux invités, Jean-Pierre et Paul. Ils disent, c'est pas mon sport de prédilection. La randonnée, c'est quoi? C'est un loisir ou un sport?
C'est les deux.
Ah,
les
merci.
Deux. C'est les deux, parce que vous avez la possibilité de faire...
Ah, il y a un problème de micro.
Oui, il y a une coupure là.
Oui, donc on peut faire aussi de la rando douce et, ou de la rando sportive, puisque dès qu'on commence à accélérer sur des dénivelés assez importants, là ça devient plus sportif qu'autre chose.
Et toc, tu vois, j'avais raison.
Ah ouais, mais t'as toujours raison. Ah
bah, non, oh non.
Si, Valérie m'a dit, quand Alain il vient, tu dis, il a toujours raison.
Oui, oui.
Et vous, avez, et vous avez une deuxième chose aussi, vous avez la marche nordique qui est très rapide. Ah,
absolument.
Aussi.
Voilà. Ah, absolument. Oui.
Ça, ça fait partie des nouvelles nouvelles disciplines.
Bon, mais moi, je préfère marcher avec des bâtons que marcher normalement. Parce que quand tu disais, quand tu as des dénivelés, au moins ça t'aide, mine de rien. Je trouve qu'on est moins essoufflé avec des bâtons. C'est marrant. Hein.
Ah bon ?
Et pourtant, je marche plus vite avec des bâtons et je suis moins essoufflé.
Tout à fait.
Ça stabilise aussi un dessin.
Voilà, peut-être. Oui, non, mais tu as raison.
Tout à fait.
Ça évite de tomber.
Ouais, oui, mais non, mais attends, si tu tombes avec les bâtons, attention, hein, parce que tu peux te faire mal.
Non, mais justement, les bâtons, ça aide à bien monter les genoux et à décharger un petit peu la charge du corps, de décharger la poids du corps en posant bien les bâtons.
Ah
par
oui,
contre, c'est vrai que beaucoup de personnes s'aperçoivent qu'ils ont du mal à marcher avec des bâtons.
Ben, c'est vrai que ça paraît hyper fastoche, mais une fois que j'ai essayé...
Pas du tout.
Ben, c'est une question de coordination. Hein.
Absolument.
Tout à fait.
T'as essayé, là ?
Oui, ben, malheureusement, j'ai essayé par obligation, compte tenu d'un petit problème que j'ai à titre personnel de condition et de santé. Et pour me remettre en train, je fais de la marche nordique.
Et t'aimes bien ?
Ah oui, 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 oui. Parce que j'ai tellement pratiqué de VTT, on en est un petit peu, puisqu'on se retrouve en pleine nature. Bon, au lieu d'être sur sa machine, on est à pied. Mais en fait, on a les mêmes sensations, on découvre, il n'y a pas de bruit, on est dans la pleine campagne. Et, ça, et effectivement, c'est pour ça. Je me suis permis de dire que c'était du sport, parce qu'après une bonne heure de marche, eh bien, on a le maillot bien humide.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que moi-même, personnellement, j'ai fait du sport du très haut niveau, surtout en athlétisme. Et c'est vrai que j'ai retrouvé des sensations en marche nordique que j'avais en athlétisme.
Ah ben, je veux bien vous croire. Mmh. J'en sais quelque chose.
Alors, on va faire un petit quiz, un jeu de questions-réponses. Hein, tout le monde participe parce qu'à mon avis, même nos invités ont du mal à trouver les réponses parce que ce sont des données nationales. Et il faut savoir que nos amis font partie de la Fédération Française Départementale. Mmh. N'empêche que bon, ces informations-là, ce sont des chiffres importants. Donc, je vais d'abord poser la question à Valérie et à Alain. L'année 1947, qu'est-ce que ça peut...
L'après-guerre.
Ouais.
T'étais sûrement pas né.
Voilà, et moi non plus.
Moi j'avais deux ans. J'avais deux ans.
Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a pu y avoir ?
En 47
Tu sais mon nom ?
Avec la...
C'est pas la date de création du club ou de l'association ?
Ouais, peut-être.
Presque ça.
Ah, la date de la fédération.
Ah,
alors,
la fédération française.
Création française.
Mais elle s'appelait pas comme ça avant.
C'est de la... Oui.
Hein ? Jean-Pierre.
Non, elle s'appelait pas ici.
Elle s'appelait comment à l'époque ?
Elle a pris ce nom-là en 1978, Fédération française de randonnée pédestre.
Et avant, c'était ?
C'était, je crois,
comité national
des sentiers et itinéraires.
Non, des sentiers de grande randonnée.
De grande randonnée.
Oui, mais enfin, quand même, il était prêt. Bravo.
Ah, voilà. Bravo.
Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'était en 1947, c'est qu'on parle de randonnée en tant que loisir et sport depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en déjà au début des années 1910, il y a déjà un personnage important sur le plan national qui n'était pas un sportif particulier, mais qui aimait bien randonner et qui aimait bien se diriger tout seul dans la nature. Et ce personnage-là, ce monsieur, c'est grâce à lui que nous connaissons la Fédération de randonnée pédestre, s'appelait Monsieur Jean Loiseau.
ça s'invente pas.
Voilà, ça s'invente pas. Et donc en 1910, lui, il a eu l'idée de marcher et de demander aux personnes d'aider les gens à marcher, mais pour le plaisir. Parce que ce qu'on peut savoir, c'est au 19e siècle, les gens marchaient surtout par obligation.
Bah, oui.
D'un village pour aller chercher
village à un autre
pour aller chercher n'importe quoi, il fallait se déplacer.
Bien sûr.
Et on marchait par obligation. Et donc ce monsieur Loiseau, lui, a eu une idée, c'est de penser aux gens pour le loisir. Et bien sûr pour le sport. Mais au début, lui, c'était pas trop sportif, c'était loisir. C'est-à-dire loisir et surtout orientation. C'est permettre aux gens de pouvoir se déplacer sans problème et sans se tromper sur tout sentier, sur tout chemin dans la nature.
Oui, c'était un sacré monsieur.
Eh oui.
Alors, voilà. Par contre, il y a eu deux autres choses importantes en 1947.
Ah.
Donc, Jean-Marc, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Il y a eu quoi comme la création du
1957, DGR, non
DGR.
Du premier GR.
Ah, oui.
Et c'était le
3.
Mais tu me l'as dit tout à l'heure, donc j'ai pas oublié. Le 34.
Le 3. Non, 3.
Le 3. Le 3 et pas 34. 34 non plus, non ?
Alors, c'était le 34, c'est celui qui est vers la Normandie.
Oui.
Et le
oui.
GR3, c'est celui d'Orléans. C'est la Loire Sauvage, il s'appelle.
D'accord.
Voilà. T'as vu un peu, je t'en apprends. Hein.
Oui.
Tu viens d'en voir si tu veux.
Et comment ils ont été créés, ces GR ?
Bah, par des gens.
Non, mais à partir
alors,
de quoi ?
Attendez.
À partir de, déjà de sentiers existants ?
Oui, oui, parce qu'ils voilà. Ils pouvaient pas, quand on voit aujourd'hui la carte, hein, la carte qu'il y a au niveau des GR... sur notre territoire, obligatoirement, c'était sur des chemins existants, puisqu'on
déjà,
le retrouve
voilà.
Sur des chemins de halage, où on les retrouve sur les fameux sentiers où il y avait les ânes, tu sais, qui
oui,
montaient.
Oui.
Voilà.
Alors par contre, petite précision quand même, parce que c'était la création du GR3, mais c'était le premier tronçon, parce que le GR, il est très long.
Ah oui, en général.
Et donc là, en l'occurrence, ce premier tronçon qui a été créé, il faisait une distance de 28 km, et il séparait deux villes, Orléans à... Quelqu'un le sait ?
Non.
Beaugency.
Beaugency. Oui, il y a un très beau château.
Oui, c'est pour ça que j'allais dire le château de Beaugency.
Ouais, oui, exactement.
Ça ne m'étonne pas.
Voilà.
Donc, les ducs d'Orléans qui allaient au château de Beaugency.
Absolument.
Et la dernière chose importante, c'est la création du balisage fédéral. Parce que pour s'y retrouver, ce n'est pas évident. On parlera justement des baliseurs, parce que notre ami Paul est baliseur.
Rouge et blanc.
Ensuite, il y a d'autres dates très importantes quand même. C'est une date... qui est importante, c'était 1992, c'était la création...
Il y a eu aussi, en 1951, peu après le numéro 3, la création du GR faisant le tour du Mont-Blanc. Mm.
Ah oui.
Et le GR20, il a été fait à quelle époque ? Parce que c'est aujourd'hui, c'est un
peu plus tard.
Je
n'ai pas la date exacte, ah bon. mais
effectivement,
un peu plus tard.
Un peu plus tard, parce que le premier, effectivement, c'était le GR3, après
oui,
le GR
après,
tour du Mont-Blanc. Parce qu'en fait, il n'a pas de numéro, le GR tour du Mont-Blanc. C'est un GR.
Non, voilà, oui.
Voilà. Et donc, après, effectivement, il y a plusieurs dates. S'il y a une date un peu... Si on part chronologiquement parlant, il y a 1957, qui était une date très, très importante. On parlait tout à l'heure de se repérer. Mais 1957 est quand même la création du premier topo grid, guide. Et est-ce que vous savez quel est le GR qui a été concerné ?
Non.
Le GR1.
GR combien ?
1. Voilà. Il a été tiré à Ronéo. Vous avez vu, je fais ma science. Maître Capello aujourd'hui. Et par contre, la particularité, c'est que c'était sans carte, mais c'était avec des croquis. Parce que à l'époque, après, ça évolue progressivement. Parce que en termes de topo guide, et puis après, on fera la pause musicale, il y a Bono qui me fait signe, il a bien raison. C'est que, en fait, le premier topo guide en 57. Après, il y a eu, faut savoir qu'en 1977, il y a 100 topo guides qui ont été créés. Donc, sur cette période-là. Avec 100 000 topos qui ont été diffusés. Après, en 1994, c'était 180 topo guides. Et en 2017, 230 topo guides. Vous avez vu un peu l'augmentation exponentielle du nombre de topo guides ?
Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
Bien
le
sûr.
Temps.
Mais vas-y, prends le temps. Mais prends le temps.
Jusqu'à 20h.
Vas-y, prends le temps.
Sur les 20h, oui, mais je vois déjà notre...
Ça fait rien, mais vas-y.
C'est pas grave, il a plus beaucoup de cheveux sur la tête.
Voilà.
Un peu plus, un peu moins.
Donc, il y a eu la création de ces topo-guides fédéraux, émanant de la fédération. Mais auparavant, et moi j'ai déjà connu ça, il y avait, du moins sur le plan départemental, Vaucluse, mais je sais que ça existait sur d'autres départements. Il y a eu des personnes qui se sont consacrées à ça. Et là, nous avions un gars qui s'appelait François Meronas, qui a vécu, je crois, tardivement jusque dans les années 1990, mais jusqu'en 1960-70, nous marchions avec des topo-guides privés qui appartenaient, qui étaient édités, créés par ce monsieur François Meronas.
Ah bah tu vois.
Chapeau, hein. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire un topo guide, hein. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les outils modernes de nos jours.
Et maintenant, j'ai encore chez moi certains topo guides qui seront presque de la collection.
Bah oui, garde-les bien.
Ah,
oui.
Bah, gardez bien, oui.
Je reviens juste sur le GR20 pour répondre à Alain. Ça a été créé le 15 mai 72.
Ah oui.
Voilà.
Une bonne année 72.
Voilà.
Allez, après cette belle parole, la pause.
something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Une petite pause détente avec In Grosso, hein, qui nous a accompagné un petit peu pendant cette émission. Revenons maintenant au réel. Et on, pendant la pause, justement, Bruno, tu poses une question et je me suis dit, c'est une question très pertinente.
Et oui, je me demandais comment se présentait le topo guide. Est-ce que ça se présente comme une carte ou est-ce que c'est un feuillet
Non, parce que c'est comme un livre en fait. Sur la partie gauche, vous avez la carte et vous avez le tracé qui est indiqué. Mmh. Et sur votre droite, vous avez toutes les indications vous permettant de vous diriger
de
sans problème.
De se repérer, d'accord.
Ouais. Voilà.
Ok.
Et vous avez également des indications sur la faune et la flore.
Ah oui, ça c'est bien ça.
On peut rencontrer comme type de fleurs ou de plantes.
Oui. Exact.
Puisqu'on parle des topo guides, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit peu hommage aujourd'hui à un collègue que nous avons, qui est un ancien et qui est malade en ce moment, mais qui est toujours là à la tâche et qui a donc travaillé souvent sur des topo guides. Il en a fait quand même pas mal. C'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance phénoménal, connaissant aussi bien la géographie que l'orientation, que la météorologie, etc. etc. Je veux nommer M. René Morel. Et c'est lui qui a été le créateur complètement, c'est-à-dire tracé et indication, toutes les indications, hein, historiques, géographiques, tout le concernant. C'est lui qui donc a fait le dernier topo guide qui est sorti. C'est une petite randonnée jaune, tracé jaune, qui fait partie du Haut-Vaucluse.
Donc Haut-Vaucluse, c'est quoi à peu près ?
En dessus d'Orange.
D'accord.
L'enclave, c'est l'enclave.
Jusqu'à Barréas, oui. C'est pas que.
Hein, que l'enclave, voilà.
Donc le topo guide, en fait, il ne donne pas uniquement la direction, pas uniquement le chemin. On a du tout plein d'informations à côté.
Vous avez des indications, il faut tourner à droite, vous avez un petit talus à monter, voilà.
Et sinon, on a plein d'informations à côté sur la faune, la flore, l'histoire, tout ça, c'est bien.
Tout à fait. Voilà.
Et les grandes surfaces, ils te les indiquent aussi. Grandes surfaces, les points essence.
Il n'y a pas les bistrots.
Ça s'appelle un GPS.
Non, mais il n'y a pas les bistrots.
Il n'y a pas les bistrots.
Donc, ça permet à n'importe qui de pouvoir trouver donc, un itinéraire sur place et de pouvoir visiter.
Mais il faut une boussole ou pas?
Oui, c'est recommandé quand même.
C'est recommandé, mais on peut, normalement, avec un topo guide, on devrait pouvoir marcher comme ça.
Comme ça?
Oui, oui.
Mais pas les yeux fermés?
Il vaut mieux.
Ah non, il vaut mieux pas. Parce qu'on pourrait chuter.
Il vaut mieux pas.
Alors, on revient maintenant, justement, après les topo guides, à quelques chiffres importants. On parlait du nombre d'associations au niveau des associations de randonnée. Et je me suis rendu compte, en fait, que l'augmentation a été exponentielle, mais c'était énorme. Les premiers chiffres datent de 1994. Est-ce que Valérie ou Alain, vous savez le nombre d'associations qu'il existait en 1994?
Aucune idée, mais ça devait déjà être important.
Porte à parler près du micro, Alain. Ah, il ne mord pas.
Excuse-moi.
Non, mais on a bien entendu. Hein.
Oui, j'ai la voix qui porte.
Est-ce que Jean-Pierre ou Paul, vous le saviez?
3400 clubs.
En 94?
Non, moins.
3400 moins. National.
Moins. 1600.
En 94, il disait. Hein.
En 94.
Moi j'ai 1600.
Là c'est dans les années 2000. Hein.
Voilà, mais non. Bon. En 94, alors, pour les chiffres, hein, donc ce sont les chiffres officiels que j'ai récupérés, c'est 1600 associations pour 41 500 adhérents.
Ah, quand même.
Donc, ah non. Non, alors, hein. Combien d'adhérents?
41 500.
Non. Il y en a 220 000.
Non, mais en 94.
En 94.
Ah oui, en 94, peut-être. Voilà. Mais actuellement, il y a 220 000 à 230 000 adhérents.
C'est bien.
Et justement. Et ludique. L'augmentation a été exponentielle, c'est ce que je disais, parce que dans les années 2000 dont tu parlais, il y avait 2385 associations, ce qui fait quand même une augmentation de 49%, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, ce qui a explosé en 2000, c'est le nombre d'adhérents pratiquants. 231% d'augmentation. On est passé de 41 500 à 137 400. Ouais. Énorme. Après, l'augmentation a continué, parce que tu parlais justement de... De
220 à 230 000.
Voilà, donc tu parlais de 2017. À l'heure actuelle, on est à 3500 associations, ce qui fait une augmentation quand même non négligeable de 47% par rapport aux années 2000. Et au nombre d'adhérents, on est effectivement à 250 000, 242 000 exactement, ce qui fait à peu près 82% d'augmentation par rapport aux années 2000. Et il faut savoir une chose quand même, c'est que, et tu vas me confirmer ça, c'est que ce sont le nombre de licenciés. Mais la randonnée pédestre, d'une manière générale, il y a beaucoup de pratiquants non licenciés.
Tout à fait.
Tout à fait.
Alors, moi, une question qui est simple. Quel est l'intérêt de prendre une licence?
Prendre une licence, déjà, c'est une assurance. C'est savoir que la fédération nous amène un plus par rapport à ça. Ça nous permet de connaître aussi donc, tous les tracés éventuels. Donc, c'est tous les conseils qu'on peut recevoir d'une fédération. Mais c'est surtout une assurance.
Donc ça, c'est très, très important.
Très important.
On a vu l'accident qu'il y avait eu au GR20, je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans, l'éboulement. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas croire, même si on est en campagne, c'est quand même dangereux.
Oui, oui, tout à fait. Et en plus,
en fait j'avais noté cinq raisons, en fait, pour pourquoi randonner avec une licence.
Ouais.
Hein, c'est pour soutenir d'abord la fédération et ses 20 000 bénévoles dans leur œuvre d'aménagement des itinéraires de randonnée. Les baliseurs en font partie, et les animateurs de groupe aussi. Hein. Pour participer aux actions de sauvegarde et de protection du patrimoine des chemins et des sentiers, l'entretien et le balisage.
Entretien et le chemin.
Pour bénéficier d'une assurance performante, ça, Paul en parle, c'est vrai qu'on a une assurance qui prend pratiquement tout en charge en cours de randonnée.
Et il faut savoir que c'est vrai que c'est les baliseurs et tout ça qui mettent en place donc les sentiers et permettent à tous ces licenciés de pouvoir être sur tous les chemins de France.
Mais ça, c'est important.
Tout
à fait.
Parce
que sans eux, bah, il n'y aurait pas de GR, ni de PR, ni de GRP.
Bien sûr.
Et il y avait une autre...
Tout à fait. Et donc, pour savoir au niveau des baliseurs, il faut savoir que les baliseurs, ils ont des parcours à faire donc, sur une base de 3 ans. Et on refait tous les circuits, tous les 3 ans, on repasse. Voilà, donc pour tout dégager, parce que ça pousse, il faut couper, il faut nettoyer.
C'est un sacré travail quand même. Et tu avais une cinquième raison.
Pour pratiquer la randonnée dans les meilleures conditions de sécurité, avec des animateurs formés et compétents, et bien sûr, pour s'inscrire prioritairement au stage Fédération Française de Randonnée, d'animateur, baliseur ou responsable associatif. Il y a toute une formation qui a été, disons, créée pour pouvoir être responsable d'un groupe. Dans tous les domaines de la randonnée.
Non, mais c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est important. On parlait des baliseurs. Il faut quand même rappeler, ils sont bénévoles.
Tout à fait.
Et on parlait des chiffres, tiens. Valérie, Alain, est-ce que vous savez, à l'heure actuelle, combien il y a de baliseurs en France?
Aucune idée. Alors là, non.
8200.
Ah, je ne suis pas surpris.
Sur un total de 12 000 bénévoles. Et à ces bénévoles, je ne compte pas les animateurs fédéraux qui sont également bénévoles et qui sont au nombre de 8 000. Ce qui fait un total de 20 000 bénévoles. C'est énorme.
Ah oui, c'est ça.
Fait.
C'est énorme.
Mais je pense que ça vient de cette mentalité, de cette marche, de cette, j'allais dire presque un grand mot, fraternité entre guillemets.
Ouais,
quoi.
C'est très ludique.
C'est pas
familial.
Il n'y a pas de preuve à faire. Bah, moi, je marche plus vite que toi. C'est pas comme le vélo.
Il
n'y
a pas l'esprit compétitif.
Voilà. Moi, j'ai un vélo plus beau que toi. Exactement. Quoi.
Tout à fait. Nous, au niveau matériel, c'est pas ça.
Donc, voilà.
Non, vous avez une autre mentalité.
Ouais, c'est ça. C'est une mentalité à part, le randonneur.
On marche surtout pour le plaisir.
La découverte de la nature.
Voilà, c'est ça. Exactement.
C'est comme vous disiez, c'est la nature. On découvre la nature, la faune, la flore. Alors qu'en vélo,
on passe.
Et on s'aperçoit que, par exemple, ici en Vaucluse, on a une richesse au niveau du Vaucluse, au niveau des bâtiments et autres. C'est magnifique. Il faut savoir qu'au niveau des baliseurs, puisqu'on en a parlé, si je ne me trompe pas au niveau des chiffres, sur le Vaucluse, vous avez 62 baliseurs.
C'est ça.
C'est quand même pas mal.
C'est pas mal. Et il y a deux GR qui passent dans le Vaucluse.
Exact.
Les GR
9, 4, 9
et 651 D, qui est Compostelle. Une partie de Compostelle passe dans le Vaucluse.
Ouais, oui.
Ah oui, exact.
Donc vous avez un GR qui passe sur le nord Vaucluse et un GR qui passe sur le bas Vaucluse.
Okay. Eh ben, c'est bien achalandé, en tout cas le Vaucluse.
Tous les deux GR, c'est-à-dire le 4 et le 9, passent à côté de chez vous, au Ventoux.
Eh ben, donc, allez, on va faire une petite pause. Bon, on va pas aller faire de la randonnée pendant notre pause musicale. Et juste après, on va parler justement de la Fédération Française de Vaucluse qui a un travail énorme parce que déjà, ils ont un site magnifique. On en parlera tout à l'heure. Et on parlera également des différentes missions et manifestations de la Fédération. À tout de suite. I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. About you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hit so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love.
When the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
De retour dans le studio, hein, je rappelle qu'on est en direct avec nos invités d'honneur. Nos invités de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de Vaucluse, Jean-Pierre Tallieu. Tu es chargé de communication et tu es également référent départemental Rando Santé.
Rando Santé, Rando pour tous.
Rando pour tous.
Oui.
Bon, on en parlera. Et tu es accompagné de Paul Lozano. Tu es référent également Rando Santé au Solar d'Éviron. C'est une association du Pontet. Tu es également animateur premier degré et également baliseur.
Exact.
Voilà.
Par contre, depuis tout à l'heure, vous posez des questions. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez le nombre de kilomètres qui ont été balisés en Vaucluse en 2017?
Alors, en 2017, franchement... Non, mais c'est bien de poser la question.
Vous ne reviendrez pas en seconde semaine.
Non, mais franchement...
Nous non plus, remarque.
Non, mais on ne les réinvitera plus. Hein. Ouais, ouais. T'as vu comment ils sont désagréables?
Mais tu poses des colles. Hein.
Non, pas du
tout. Depuis tout à l'heure, tu nous en poses. Ouais. Tu nous en poses.
Non, mais bon.
Alors, qui te colle un peu.
Je dirais, allez, 500 kilomètres.
Oh, du nom, ça, à mon avis, il y a beaucoup plus. Hein.
Non, non, vous n'êtes pas loin, on a fait exactement 435 km.
Oh, oh trop fort, ouais, wow. Champagne. Alors franchement, c'était au hasard.
C'est énorme.
Bah, tu pourras nous payer.
C'est énorme, ouais.
C'est énorme. Hein.
Et est-ce que vous savez, comme on est, et dernière question, combien il y a, donc en 2017, de kilomètres de GR en France?
GR et GRP.
Non, GR.
Que GR?
Bah, j'en sais rien.
Non, c'est GR et GRP.
Bah, GR, GRP, si tu veux.
Il y en a environ... 1000 oui. kilomètres.
Ah non, bon, on est beaucoup ça. Plus.
Comment?
Beaucoup plus.
Plus que ça.
En GR, hein?
En GR.
En GR, tu parles?
GR.
Il y a 1000 kilomètres sur le territoire.
Non, mais sur tout le territoire, hein, on te parle.
Sur tout le territoire.
Sur tout le territoire, hein.
Ah, pas que sur le Vaucluse.
Ah non, non, non.
Ah, d'accord. Sur national.
Ouais.
Je parlais de départemental.
Ah ouais, non.
On dirait plus de 8000 kilomètres.
Ouais, j'allais dire 7000.
180 000.
Plus de 8000.
Ah, quand même, 180 000, ça fait beaucoup.
Alors, si on fait le rapprochement entre vous et Jean-Pierre, Jean-Pierre, il se rapproche quand même.
180 000.
Non, c'est pas vrai.
Moins.
Il y a 2-3 ans, c'était ça.
Ah non, c'était... On est à 107 000.
Ah, quand même, j'en reviens pas, c'est quand même pas
mais
mal.
Oui,
hein.
Sur tout le territoire. Et...
Bah oui, mais on a 107 000 kilomètres.
Non, mais on a de quoi faire.
Entre les Vosges, le Jura, les Alpes,
ah,
les Pyrénées.
Il y en a dans tous les sens. Les
Pyrénées orientales, il y en a dans tous les sens.
Ben, simplement, vous prenez le GR qui contourne toute la côte bretonne.
Oui,
vous avez un GR qui fait plus de 1500 km.
Je connais bien. Ben
non,
oui.
Mais c'est...
Eh oui.
Alors, j'avais une autre question et après on parlera de la fédération. J'ai vu que la fédération française, donc nationale, venait d'obtenir en 2017 la délégation Longe-Côte.
Oui.
Est-ce que vous savez ce que c'est?
Oui.
C'est quoi exactement?
C'est de la randonnée dans l'eau.
Et il faut une délégation particulière?
Mais il faut surtout une formation particulière, oui.
D'accord. Et en fait, c'est de la marche dans l'eau.
C'est de la marche dans l'eau, oui.
Et avant cette date-là, il y avait une fédération qui avait cette compétence ou pas?
Non, 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 c'est tout.
C'est une nouvelle discipline.
C'est la multiplication des randonnées.
Oui, l'été, tu vois marcher les gens dans l'eau. Moi, j'en vois beaucoup. Tu les vois, surtout des personnes d'un certain âge. Elles marchent, elles ont de l'eau jusqu'au, on va dire, au mollet un petit peu, voilà. Et elles marchent. Non, c'est pas ça.
Non, Langecôte, c'est beaucoup plus haut.
Ah, c'est beaucoup plus haut.
Jusqu'à la taille au mollet.
Oh, ouais, mais là, c'est haut, c'est fatigant là.
Ah oui. C'est sportif.
Et c'est très très bon pour la santé.
Il faut savoir qu'ils le font.
Tu te rends compte jusqu'à la hanche.
Oui. Mais là, ce sont surtout les associations au bord de la mer, l'océan, qui pratiquent. Nous, on n'en parle pas.
Mmh. Aussi bien en été qu'en hiver.
Oui,
c'est la combinaison, là, hein, l'hiver.
Voilà, il faut aller là où je suis né, c'est-à-dire les plages du débarquement. Là, là vous pouvez...
Dans le nord, dans le grand nord.
Non,
tu
pas
te moques de moi, là.
Ouais.
Tu te moques de moi.
Petite Normandie.
Alors, on va parler de la fédération, hein, si vous le voulez bien. La fédération française donc de Vaucluse, bien entendu. Elle est ancienne. Comme on est dans les dates.
Je pense que c'est pratiquement à la création de la nouvelle appellation Fédération française de randonnée en 1978.
Ah oui, donc elle a vécu.
Oui.
Hein. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez combien de clubs qui adhèrent ?
52.
52 clubs. Pour combien d'adhérents ?
3400 adhérents.
C'est bien. Hein. Mmh. Je trouve, pour un département comme le Vaucluse. Après, c'est vrai que le Vaucluse permet quand même de belles randonnées. Hein. Moi, tout à l'heure, en aparté, j'en parlais avec Jean-Pierre, c'est vrai qu'on a le Mont Blanc, le Mont Ventoux, on a les dentelles de Montmirail, on a également le Vaucluse, le Luberon. Non, mais franchement, il y a des
super. Perché, hein.
Et le Massif du Chaux aussi, qui est super.
Et donc, on parlait justement tout à l'heure des GR, et au niveau du nombre de GR, on a deux GR, trois GR, hein, c'est ça, qui traversent le Vaucluse, et des GRP, il y en a ?
Il y en a aussi.
Bien sûr.
Il y en a combien dans le Vaucluse ?
Il y en a, je serais pas capable de te dire combien, mais tous les circuits un petit peu dans les massifs, ce sont des PR, des petites randonnées.
Et justement, pour nos auditeurs qui découvrent un petit peu cette discipline,
qu'est-ce qu'un GR ? Donc,
qu'est-ce qu'un GR ? Qu'est-ce qu'un GRP ? Et qu'est-ce qu'un PR ? Et après, au niveau du nombre de kilomètres ? Parce que je pense qu'on ne les fait pas dans la journée.
Non. Un GR, c'est un sentier balisé qui traverse un pays et qui se déplace dans un autre, qui passe à la frontière et qui va dans un autre pays, qui existe pour nous, par exemple, en Italie, en Espagne, et qui peut aller même dans les pays scandinaves, en conservant pratiquement la même appellation.
Ah oui, donc c'est l'appellation GR, c'est international, européen ou international ?
Européen.
Européen.
Oui, que je sache, oui. Européen.
Donc, le plus long, c'est le GR.
Le
plus long, c'est le GR20, non, c'est ça ?
Actuellement, oui. Pas forcément, parce que vous avez des GR qui sont beaucoup plus longs, mais qui sont moins connus.
Mmh.
Et quand on prend, par exemple, les GR qui passent en kilométrage ici en Vaucluse, je peux vous dire qu'on n'est pas loin du GR20.
Et combien de kilomètres, tu sais, à peu près ?
Je ne l'ai pas en tête. Mais
parle pas du micro.
Oui, je sais pas si c'est... Je m'en rappelle plus.
Non. Bah Valérie Bettre Capello va rechercher sur internet, voir si elle peut trouver la longueur du GR20. Après, on a les GRP, les GR de pays. Alors, le rapport entre le GR et le GRP, alors ?
GR de pays, c'est quand c'est une boucle dans une même région de France.
Donc, on part d'un point et on revient sur le même point ?
Voilà. Par exemple, dans le Massif du Chaux, dans le Luberon, il y a beaucoup de petites boucles qui font 4-5 heures. 6 heures peut-être, qui sont des GR de petites, de GRP, de pays.
De pays.
Voilà. Ces GR-là sont circulaires, pratiquement, et ne s'expatrient pas dans un autre pays.
Et par contre, au niveau de ces GRP, c'est à peu près maximum 5 heures de marche ?
Oui, en moyenne, 4-5 heures environ.
Et donc après, il y a les PR, donc les petites randonnées. Eux, c'est combien de temps ?
Ça peut être 4 ou 5 heures aussi, mais ça peut être facile. Il y a des PR pour famille qui font 2 heures.
2 heures à peu près.
2 heures, 2 heures et demie, 3 heures maximum.
Mmh. Alors justement, on parlait de ces GR. Pour pouvoir entretenir ces GR, on a les baliseurs. Mais par contre, j'ai vu aussi en préparant l'émission qu'il y avait des collecteurs. Et quelle différence y a-t-il entre le baliseur et un collecteur, Paul ?
Un collecteur, c'est quelqu'un qui va...
Il n'est pas sur le terrain, si ?
Si, il va sur le terrain, il a un GPS avec des points bien précis qui va notifier après sur une carte, c'est surtout des points numériques.
Voilà, lui, c'est plutôt la partie numérique. Voilà. Et le baliseur, lui, il va faire quoi exactement ? C'est quoi ? Toi, tu es baliseur, tu fais quoi comme travail exactement ?
Moi, mon travail, c'est de marquer, de faire le marquage donc, au niveau des
circuits. Mais il existe déjà le marquage ? Faut le refaire ?
Tous les 3 ans, on est obligé de repasser. Parce que la nature avance, ça pousse, ça se dégrade.
Donc... Mais tu tonds l'herbe, tu coupes l'herbe ou...
Non, je coupe surtout les branches et les... pour que les marques soient visibles.
D'accord, ok. Et donc là, toi, tu es baliseur. Un auditeur qui nous écoute, qui aimerait s'investir justement auprès de la fédération et devenir baliseur, est-ce qu'il faut avoir déjà une bonne ancienneté dans la randonnée ou un novice peut le faire ? Et quel cursus de formation il y a ?
On a des chefs, on a des responsables de secteur qui nous apprennent donc à baliser déjà. Déjà, je pense que la première chose, c'est de faire partie d'une association déjà. Et là, dans la formation, moi, je sais que notre chef de secteur, ben, il nous a formés sur le terrain.
Et voilà. La formation dure combien de temps à peu près ?
Bon, c'est assez facile, hein. C'est assez facile à apprendre, hein. C'est très rapide.
Et après, c'est sectorisé votre intervention ?
C'est très sectorisé par équipe.
Et après, il y a aussi, on parlait tout à l'heure, tu es animateur fédéral de premier degré, je crois.
C'est ça, oui.
Mais par contre, il existe également des guides de moyenne montagne. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission, là aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'un guide de moyenne montagne qui, lui, fait de la randonnée avec des clients, il leur montre la faune, la flore, mais il circule effectivement comme au Mont Ventoux, dans les Dandelles. Donc, quelle différence y a-t-il entre les deux et est-ce qu'ils font partie de la même fédération ?
Pas du tout.
Ah.
De toute façon, quand tu emploies le mot guide, c'est impropre, nous concernant. Mmh. Parce que nous ne sommes pas des guides. Les guides, ce sont des accompagnateurs professionnels. Et on en voit souvent, bien sûr, en haute montagne.
Par contre, un animateur deuxième degré peut se permettre de faire déjà de la moyenne montagne.
Alors, la moyenne montagne, c'est quelle altitude à peu près
ben Jean-Pierre, il peut en parler, il est deuxième degré.
Ouais, c'est...
Je pense qu'on peut aller jusqu'à 1000 mètres.
1000 mètres, donc le Mont Ventoux, ça rentre dans ce cadre-là. Mais comme tu disais, guide, c'est impropre par rapport à la fédération, c'est-à-dire que...
On dit jamais c'est... guide, nous.
Voilà,
nous
oui.
sommes des accompagnateurs.
Mais le guide de moyenne montagne, en fait, c'est une personne donc, qui est rémunérée pour son intervention, mais il fait quand même partie d'une fédération.
Oui, mais c'est pas
certainement, mais qu'elle n'a rien à voir avec la fédération.
Voilà. Vous, il n'y a pas de guide. Aucun.
Il n'y a aucun guide, nous.
Vous, ce sont des animateurs fédéraux
ou accompagnateurs, comme
accompagnateur,
tu veux.
Accompagnateurs, voilà. Oui. Premier, deuxième degré. C'est
premier, ça. Deuxième degré.
D'accord. Ben, au moins, ça permet de, voilà, d'être
avec
plus clair sur...
Avec des diplômes complémentaires. Hmm. Par exemple, pour la marche nordique, tu as ou bien un SA1 ou un SA2, c'est les deux diplômes existants, mais tu ne peux pas... enseigner de la marche nordique ou bien de la, ce que tu disais tout à l'heure,
la marche dans l'eau, là.
Marche dans l'eau. Mmh. Hein. Tu peux pas si tu as pas un diplôme en plus complémentaire. Et pour la rando santé, c'est pareil.
Ce sont des diplômes spécifiques.
Ce sont des modules complémentaires de formation.
Okay. Valérie.
Oui, tu me demandais tout à l'heure la distance du sentier de grande randonnée, le GR20.
Oui.
170 km.
Ah oui.
Alors, il peut être effectué en 16 jours. Hein, ils disent environ une étape par jour avec une moyenne de 7 heures de marche par jour.
Ah oui, c'est pas mal.
Voilà. Mais tu as des champions qui les font, donc, dont François Daen, en 31 heures et 6 minutes pour les hommes. En 2016, c'est un record en juin 2016.
Trail, en fait.
Voilà. Et chez les femmes, c'est Émilie Lecomte qui l'a fait en 41 heures et 22 minutes et 10 secondes.
Chapeau.
Quand on connaît la difficulté du GR20. Ouais,
et costaud, aussi, il y a un jeune qui l'a fait, qui a voulu le faire en 7 jours lui aussi. Mais bon, c'est quand même costaud, quoi.
Voilà.
Parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé, j'ai vu. Hein. Ah
c'est énorme.
Ouais, ouais.
Allez, on fait une petite pause et pour la dernière partie de l'émission, on va parler de rando santé, rando détente. Il y a plein de choses qu'organise la fédération. Et vraiment, vraiment, on vous invitera à aller les contacter. À tout de suite. It was great at the very start. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Come
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
De retour dans l'émission, dernière partie, et oui, ça passe toujours trop vite. Et je voudrais m'excuser vraiment au nom de tout le monde auprès de Alain, parce qu'il ne pourra pas faire sa chronique, parce qu'on a beaucoup de choses encore à parler avec nos amis de la Fédération française. Mais je te promets que la semaine prochaine, tu auras plus de temps pour parler des choses.
J'y compte bien.
Voilà. et on te paiera l'apéro.
Oui, surtout, non, on aura à parler de ce qui se passera. Je m'arrête là. Vélo passion dans le Vaucluse.
Voilà, c'est ça.
Il y a une grande manifestation qu'il ne faut surtout pas laisser sous l'étouffoir.
Parce qu'on devait effectivement faire un duplex téléphonique qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu.
Bon,
mais
dommage.
En tout cas, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave parce que toi, tu as toutes les informations.
Absolument.
Et comme c'est dans deux semaines, à partir du 26 janvier
26
prochain.
26 janvier, oui, vendredi.
Voilà, on pourra en parler. Donc, chers auditeurs, sachez que la semaine prochaine, il y aura un aparté un peu plus important sur Vélo Passion qui aura lieu donc à partir du 26 janvier. On revient donc à nos randonneurs. Et au niveau de la Fédération française de Vaucluse, pour initier un maximum de randonneurs, vous avez mis en place un projet qui est intéressant. C'est un projet pour devenir un petit peu itinérant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Oui, je peux en parler.
Bien sûr.
Parce qu'actuellement, c'est en cours, c'est un projet. Hein, mais on y tient beaucoup parce qu'on s'est aperçu avec plusieurs partenaires que de ce côté-là, en tourisme, on est un petit peu parent pauvre dans le Vaucluse. Et on va essayer donc de créer, de mettre sur place, sur pied, donc un topo guide concernant de l'itinérance sur plusieurs jours, donc autour des différents massifs vauclusiens, comme le Luberon, le Ventoux, le massif du Chaux, les monts de Vaucluse aussi, voilà.
Et ça va changer par rapport au topo qui existe à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui va changer exactement?
Ah ben là, pour qu'il y ait itinérance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe de toute la comment on appelle ça, la maintenance, c'est-à-dire prévoir les hébergements, prévoir...
Ah oui, on va aller jusque-là, au niveau même de l'hébergement.
Bien sûr.
Il faut un peu comme Compostelle.
Voilà, tout à fait. Ça fonctionne très bien sur Compostelle, ça fonctionne très bien en Corse, ça fonctionne très bien dans le Massif Central sur des sentiers comme Stevenson. Mmh. Mais ici, dans le Vaucluse, nous n'avons pas ça.
Ah,
et ça manque beaucoup.
Ah ben oui, j'imagine.
Et ça y est, on s'y attelle. Mais c'est un gros boulot. On a une personne qui est salariée, qui travaille à temps plein pratiquement à ça. Mmh. Et donc là, il faut rechercher des hébergeurs, il faut chercher, prendre faire une convention avec eux et les motiver. Et ensuite, il faut trouver des endroits où on pourra manger et il faut s'occuper de tout, pratiquement.
Donc, on peut lancer aussi un appel à tous les hébergeurs qui sont dans quel secteur?
Autour de GR.
Autour des massifs principaux de...
Donc, le Mont Ventoux, le Luberon, les Dentelles peut-être?
Les Dentelles, le Mont de Vaucluse, et puis le massif du Chaux.
Il y a en tout 10 circuits de prévus.
Combien?
10.
Ah oui.
10 circuits.
Et est-ce que vous avez à peu près un délai pour la sortie du premier topo guide? Dans l'année
2018? Non, ça m'étonnerait. Enfin, j'en sais rien.
Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que les circuits peuvent être mis en place puisqu'on a déjà rencontré donc une partie des hébergeurs. Donc je pense que la première partie peut être lancée dès cette année.
Ah oui, donc ça peut être intéressant. Donc on suivra justement l'évolution parce que c'est vrai que la randonnée passionne de plus en plus de personnes. On a pu voir tout à l'heure ça dans les chiffres. Et puis il y a un autre point, et c'est vrai que tu parlais, Alain, tout à l'heure de ton problème de santé et de l'obligation pour toi de te mettre à la marche nordique. Mais la Fédération française de Vaucluse a mis en place, au niveau national, la rando santé.
Oui. La rando santé fait partie quand même d'un ensemble. Hein.
Dis-nous tout.
Nous, on parle de rando pour tous, au départ.
Mmh. Oui. Hein,
qui se décline en trois versions.
D'accord.
La rando douce, qui est la randonnée pour personnes...
Quel type de personnes?
C'est pour des personnes qui font 7-8 km seulement, pratiquement avec moins de 200 mètres de dénivelé.
Mmh.
Nous avons... Aussi, on s'occupe, nous, mais ce n'est pas national, ça, parce que c'est notre association qui le veut bien. On s'occupe aussi des personnes handicapées. Et on leur propose 2 ou 3, 4 sorties par an avec des sur leur fauteuil roulant. Hein. Mais ça, disons, c'est pas national, c'est pas préconisé par la fédération. C'est l'association Les Solars d'Eviron qui s'en occupe. Et
c'est
là,
bien,
nous avons vraiment
chapeau.
De super retours de gentillesse et d'amitié.
Oui, et puis ça fait partie de la rando pour tous. Tout le monde peut pratiquer.
Par contre, là, il faut être un bon marcheur parce qu'il faut marcher au moins à 5 km/h.
Parce qu'ils ont des fauteuils roulants électriques. Et ils font 5-6 km. Alors, il faut pousser, il faut tenir.
Ah, ben oui, ça.
Et je vais laisser quand même la parole à Paul pour qu'il va nous parler de la rando santé.
Oui, parce que toi aussi, tu es référent.
Oui.
Oui, au niveau de la rando santé. Donc, c'est très nouveau donc, dans le Vaucluse, puisque à l'heure d'aujourd'hui, il y a une seule association qui pratiquent la rando santé, c'est les Solars d'Eviron. Et actuellement, donc, on est en pourparler pour avoir deux autres sections, une sur Orange et une autre sur Monteux. Monteux, c'est bien avancé puisqu'ils sont déjà labellisés, il faut avoir un label. La rando santé, il faut savoir que tous les animateurs qui encadrent la rando santé sont tous formés, sont tous diplômés. Ils ont tous le SA1 et en plus de ça, ils ont le diplôme de... spécifique pour la rando santé. Donc il faut savoir que sur les Solars d'Eviron, vous avez déjà 5 animateurs.
Ah oui, c'est bien. Donc l'association est située au Pontet.
Oui, tout à fait.
Vous avez un site internet?
Oui.
Bon, on le mettra sur le podcast.
Voilà. Et donc il faut savoir qu'au niveau de la rando santé, donc il y a un médecin fédéral qui nous accompagne, qui est Monsieur Pascal. Et donc il voit les personnes qui veulent marcher. Souvent c'est prescrit soit par les médecins, soit des gens qui ont envie de reprendre, des anciens sportifs qui ont envie de reprendre une activité. Et c'est vrai que c'est assez bien. Ça permet donc à toutes les personnes de pouvoir marcher et se relancer dans le sport. Et en retour, comme disait Jean-Pierre, c'est vrai qu'on a un retour qui est très important. Et c'est vrai que nous qui avons des petits bobos comme beaucoup de gens, à côté d'eux,
On relativise.
On relativise. Oui. Voilà, c'est très intéressant.
Donc ça, c'est vraiment une belle initiative. Et donc ça, au niveau de la fédération, vous allez faire perdurer. Et donc, il y a deux antennes qui vont certainement ouvrir. C'est Monteux. Hein.
Monteux, oui.
2018
Monteux 2018, oui.
Et Orange?
Alors déjà, il faut savoir que Monteux déjà avait démarré, mais ils ont eu des petits soucis d'encadrement. Mais là, donc, c'était en train de se rétablir. Et donc, Monteux devrait fonctionner normalement.
D'accord, donc rentrée de septembre, c'est bon.
Oh oui, même maintenant, prochainement.
Voilà, donc l'émission va se terminer. Jean-Pierre, tu avais quelques nouvelles à nous annoncer de particulières sur la fédération. Un prochain rendez-vous peut-être, non?
Oui, on pourrait fixer un autre rendez-vous parce que nous avons notre prochaine manifestation qui est déjà, nous l'avons toutes en tête.
C'est quand?
La journée découverte.
La marche nordique.
Ah.
Ah, mais tiens, ça
c'est
sera bien
pour la fameuse journée
pour
découverte de marche nordique, toujours pareil.
Oui. Toujours, oui.
Attends, il cherche ses papiers.
Nous conservons de toute façon toutes les manifestations existantes, hein, que ce soit la marche nordique, que ce soit le rando challenge, que ce soit la semaine départementale de randonnée pédestre dans tout le Vaucluse. Hein. C'est conservé.
Mais écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre effectivement le rendez-vous. L'émission donc se termine. Sur le podcast, il y aura le site internet de la fédération, le site internet des Solars d'Eviron, parce que ça c'est important. Et puis voilà, l'adresse internet. Il y aura même un mail. On pourra contacter. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Donc Jean-Pierre Tailleux, chargé de communication auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de Vaucluse et effectivement référent rando santé au niveau du département, et Paul Lozano, responsable de la rando santé au Solar d'Eviron au Pontet, animateur premier degré et également baliseur. Merci à tous les deux, merci Alain, et je te promets que la semaine prochaine tu auras plus de temps de parole.
Sinon je reviens plus.
Valérie, merci. Merci mon petit Bruno, on retrouvera bien sûr Alexandre. Et je vous souhaite une bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Et merci de cet accueil.
Bonsoir.
Avec grand plaisir.